Donc, le message d'aujourd'hui, on poursuit notre série qui est dans, donc une suite de méditation sur la prière visionnaire de notre famille d'Église. Vous avez reçu, probablement tous, ou presque, des méditations quotidiennes pendant 7 semaines. Moi, je suis en train de les faire. J'ai manqué presque aucun jour. Et c'est vraiment bien. Donc, ce sont des lectures bibliques qui sont choisies pour chaque jour en fonction d'une phrase de la prière. La prière, on va la lire dans un instant. Mais je voulais juste vous dire, la semaine prochaine, il va y avoir un temps où toi, tu peux, si tu désires, partager un verset ou une lecture biblique qui t'a fait du bien durant la semaine. Donc, on prendra la parole. Il ne faudra pas parler trop longtemps, mais dire, voilà, il y a un verset que j'ai lu cette semaine qui m'a fait du bien. Tu peux le partager, le verset, et peut-être dire pourquoi ça t'a aidé, parce que ça va nous aider d'entendre comment le verset t'a aidé. Alors, il peut venir des lectures qui sont suggérées par le guide dont je viens de vous parler, ou ça peut être d'autres choses. Ça sera libre. Il y aura aussi un message après ça. Donc, voici la prière qui... Ah oui, ça, c'est le titre de mon message. Je pense, donc, je change. Jésus transforme ma manière d'être. On va prendre un texte dans Romains aujourd'hui qui était dans les méditations de cette semaine. Alors, voici la prière. Voulez-vous la réciter avec moi? Allons-y. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Viens nous transformer de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de se multiplier partout. Amen. Alors, la phrase de cette semaine, en fait, c'est de la semaine passée, c'est « Viens nous transformer ». Alors, on a parlé de « Viens » la semaine passée et cette semaine, « Viens nous transformer ». Donc, Dieu, transforme-nous. Mes pensées ont été ramenées en ce qui concerne cette transformation radicale à quelque chose que j'ai vu à l'Internet il y a un bout de temps, mais qui est assez frappant. Un couple qui s'appelle Ian et Larissa. C'était un jeune couple et ils allaient se marier. Ils étaient fiancés et ils allaient se marier. En 2005, ils étaient fiancés. Et le garçon Ian, un jeune homme, a pris plus qu'une job pour payer pour le mariage et en allant vers un de ses nouveaux emplois, il a eu un terrible accident de voiture. Oui. Dommages cérébraux. Il est devenu paralysé et même il ne parlait plus. Et alors, c'était un couple croyant. Larissa priait. Seigneur, au moins que mon fiancé puisse recommencer à parler. Et Dieu a répondu à la prière. Il est resté paralysé, il est resté affecté dans son cerveau, dans son corps. Par la grâce de Dieu, il a recommencé à parler. Et elle a décidé, lui aussi, ils ont décidé quand même de se marier. Et ils se sont mariés en 2006. Ils ont un blog. Et on peut lire là-dessus, Ian et Larissa, c'est le nom du blog, si je me souviens bien. Et quelle décision assez radicale. Larissa avait des amis, des amis à Ian aussi, qui leur disaient, c'est peut-être mieux de ne pas vous marier. Elle a dit ceci, dans les raisons habituelles de se marier, la raison que je me marie pour augmenter mon bonheur par le mariage est là, mais en réalité, c'est secondaire dans, le, dans l'Évangile. La première raison que j'ai découverte, dit Larissa, glorifier Dieu en rendant visible l'amour de Christ. L'amour l'un envers l'autre dans le mariage est le symbole visible de l'engagement, de l'amour indéfectible de Christ envers son peuple. Et ça l'a inspiré. Et elle a décidé, et son fiancé était d'accord, ils se sont mariés. Alors, ils sont encore mariés aujourd'hui. À un moment donné, le blog a arrêté, mais ça, c'était pour d'autres raisons. Mais ils sont encore mariés. Et c'est un mariage avec des hauts, mais aussi avec des bas. Ils ont des fans, ils ont des supporters, ils ont ceux qui les critiquent aussi. Peut-être qu'il y en a qui disent, mais vous n'auriez pas dû aller à cet extrême-là. Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que aussi la vie intime est limitée dans ce sens-là. Ils se sont mariés quand même et ils acceptent les critiques de certaines personnes. Mais une chose est sûre, ce mariage nous surprend, nous déstabilise, mais nous ramène à l'Évangile. On ne peut pas ne pas les voir, ne pas comprendre qu'ils font ça pour Jésus et ils font ça à cause de l'amour qu'ils ont compris en Jésus. Alors, je parle de cette histoire parce que le texte de ce matin nous parle d'une nouvelle manière de vivre. Donc, pour être transformé, voilà un texte qui faisait partie des lectures. Ah, ça, c'est une photo de notre couple, Larissa et Ian. Notre texte de ce matin, nous allons le lire. Je vais juste prier, mais inviter aussi Awen Shell, qui va le lire pour nous. C'est une de mes lectrices et elle va nous aider ce matin. Oui, Seigneur, ouvre nos cœurs pour être bien attentifs à ce texte qui est le centre de notre focus ce matin. Ta parole. Oh, guide-nous au nom de Christ. Amen.
Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Merci beaucoup. Alors, un texte avec beaucoup de mots. Et ce qu'on va faire ce matin, on va y aller d'une manière cursive, c'est-à-dire, on va y aller avec l'ordre du texte. Une expression à la fois, parfois un mot à la fois. Et je vais donner des explications, parfois des exemples, parfois des pistes de mise en pratique. Alors, allons-y avec, donc, chaque expression, je la mets comme en blanc pour que vous puissiez la voir. Paul a écrit aux Romains, ici, aux chrétiens d'une des premières églises chrétiennes, l'église de Rome. Et il commence ici son chapitre 12 de cette lettre, cette longue lettre, en disant « Je vous encourage donc, frères et sœurs. Je vous encourage donc, frères et sœurs. » En fait, le mot « donc » est important ici. C'est un tournant dans la lettre aux Romains. Dans les 11 chapitres qui précèdent, Paul donne la théorie, l'explication de ce que Dieu a fait en nous pour nous dans l'Évangile. Donc, le « donc », c'est par rapport à ce qui précède, et c'est tous les 11 chapitres précédents. Ce n'est pas juste la dernière phrase avant ça, c'est tout ce qui précède. Les 11 chapitres qui précèdent résument toute la bonne nouvelle, et maintenant, on s'en va de la théorie vers la pratique. Je vous encourage donc, on a hâte d'entendre la suite. C'est quoi qu'il dit avant? Il y a 11 chapitres d'explications qui sont vraiment intéressantes et importantes. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Mais en fait, Paul commence en disant que la bonne nouvelle commence avec une mauvaise nouvelle. Nous, les humains, on a un problème. La bonne nouvelle, c'est la résolution du problème. Mais le problème, c'est que nous sommes sous l'emprise du péché, qui est la rébellion contre Dieu. Il explique ça. À cause de notre rébellion, de nos ancêtres, de nos cultures et de chacun de nous, nous sommes malheureusement sous le jugement de Dieu qui nous prend au sérieux. La bonne nouvelle, nous sommes gratuitement réconciliés, justifiés par la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Son sacrifice sur la croix, c'est ce que nous avons célébré ce matin, gratuitement justifiés à travers la foi. Donc, par notre foi, nous recevons ce salut. Et ça s'applique à tous. Et Paul va parler de chaque groupe. Il mentionnera, pas dans Romains, mais ailleurs, hommes et femmes, petits et grands, esclaves et libres, et les différentes ethnies, juifs et non-juifs. Et dans les non-juifs, il y avait les Grecs et les barbares. Aujourd'hui, on pourrait parler de différentes cultures et nationalités. Les riches et pauvres aussi. La bonne nouvelle qui est à la croix, elle est pour tous les humains. Et alors, quelle bonne nouvelle? C'est un sujet de grand remerciement. Et Paul dit, je vous encourage donc. Parce que comment est-ce qu'on doit répondre à Dieu pour ce merveilleux cadeau? Eh bien, il va nous l'expliquer. Ce n'est pas par les œuvres méritoires, ça il l'explique. Donc, moi je veux remercier Dieu, ce n'est pas en essayant de le remercier par des œuvres qui vont mériter l'approbation de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans l'Évangile. Ce n'est pas non plus par une vie de plaisir. Il y en a qui se découragent et qui disent, je ne sais pas si Dieu m'aime ou pas, je vais vivre et me faire du bien à moi-même. Je vais être authentique avec mes désirs. Ce n'est pas ça non plus. Et ce n'est pas non plus l'élitisme des philosophes. Où les philosophes disent, par notre instruction, par notre sagesse, nous allons sauver le reste de l'humanité. Non, Paul parle de ces différentes options. Il dit, non, il y a une vraie bonne façon de répondre. Il va la dire dans quelques instants. Mais remarquez les mots qui sont doux et qui font du bien dans cette première partie. Je vous encourage, il dit. Il ne dit pas « je vous commande » ou il ne dit pas « Dieu vous commande ». Non, « je vous encourage ». C'est un mot doux. Donc, la réponse doit venir de ton cœur. Et il dit aussi « frères et sœurs ». Donc, il se connecte avec toi et moi, avec les Romains, mais nous aussi, on est ses frères et sœurs. Donc, les leaders et les nouveaux qui reçoivent l'enseignement, on est tous au même niveau. Nous sommes tous des frères et sœurs. On va répondre ensemble. Continuons avec la prochaine expression, par les compassions de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient faire quoi là-dedans? Par les compassions de Dieu. Alors, c'est parce que Dieu a eu compassion de toi. Elle s'est exprimée dans l'œuvre de Jésus. Il l'a envoyé pour tous, mais spécifiquement pour toi. Dieu a eu compassion de nous en tant qu'humains. Il a eu compassion de toi dans ta situation. Tu ne pouvais pas te sauver toi-même, même si tu essayais peut-être. Et il nous a tellement aimés qu'il nous a donné toutes ces choses dont on a déjà parlé aujourd'hui. Tu as été justifié gratuitement. Imagine-toi, tu es dans un procès et le juge te déclare, tu es acquitté, non coupable. Tu le sais que tu es coupable, mais le juge te déclare non coupable en vertu de ce que Jésus a fait. Justifié gratuitement, il n'y a plus aucune condamnation. Tu es un enfant adopté par Dieu. Rien ne peut te séparer. Tu as reçu le Saint-Esprit et tu es maintenant une bien-aimée de Dieu. Est-ce que tu savais que tu es une bien-aimée de Dieu? Oui? Oui? Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis un bien-aimé de Dieu. Je suis une bien-aimée de Dieu. Oui, Dieu a eu compassion de toi. Rappelle-toi que tu es aimé. S'il l'a fait, c'est parce que son cœur voulait te sauver, te sortir de ton problème, et c'est ce qu'il a fait. Donc, avant de répondre, souviens-toi de cette compassion de Dieu. À cause de cette compassion de Dieu, voici la réponse que Dieu aimerait te voir vivre. Je t'encourage à offrir ton corps, comme un sacrifice. Alors, c'est le centre de ce qu'il faut que tu fasses, OK? Il faut que tu aies encouragé à faire. Le mot, c'est encourager. Donc, c'est quoi ça? Bien, premièrement, parlons du mot sacrifice. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de sortes de sacrifices. Et c'était en préparation pour la venue de Jésus. Beaucoup de sacrifices demandés par Dieu. Et les hommes et les femmes, des fois ça se faisait en famille, allaient au temple pour pratiquer les sacrifices. Alors, c'était pour maintenir ton bon standing dans la religion et avec Dieu. Maintenir et rétablir. Donc, quand tu péchais, eh bien, tu allais sacrifier un animal. Et le prêtre disait, voilà, tu es maintenant à nouveau dans un bon standing. Maintenant, quand tu péchais encore, tu retournais avec un autre sacrifice. Donc, c'était à répétition. Et c'était quelque chose de lourd, mais qui te rappelait, oh, Dieu est saint, et c'est pas gratuit de recevoir le pardon des péchés, même quand tu recevais une moisson, eh bien, on te demandait de faire un sacrifice de remerciement pour ce que tu recevais. Donc, en fait, ça, c'est deux sortes de sacrifices importants dans l'Ancien Testament. Le sacrifice de culpabilité, où, en quelque sorte, on vient réparer un péché et on vient, en quelque sorte, expier ce péché. Et il y avait aussi des offrandes de remerciement. C'était plus le cœur léger. Merci, Seigneur, pour m'avoir donné telle chose. Il y avait beaucoup de sacrifices, mais ils étaient tous comme une prédiction du seul vrai sacrifice qui s'en venait, celui de Dieu le Fils venu mourir une fois pour toutes, pour tous les péchés. C'était aussi un sacrifice de remerciement. Parce que lorsque nous remercions Dieu, eh bien, nous nous tournons aussi vers le sacrifice de Christ. Alors, pourquoi est-ce que maintenant que nous sommes sauvés, nous devons offrir notre corps en sacrifice? Je n'ai pas besoin de mourir pour mériter cette relation avec Dieu. Tu sais que si tu as reçu le sacrifice de Christ dans ta vie, que tu as dit à Jésus, « Oui, je veux être au bénéfice de ce que tu as fait pour moi », eh bien, tu es dans une relation stable et éternelle avec Dieu. Et même si tu pèches, tu restes dans la relation et oui, tu dois revenir en demandant pardon, mais ce n'est pas lourd comme dans l'Ancien Testament. C'est une relation de père à enfant que tu dois rétablir dans sa communion. Ce n'est pas des sacrifices à répéter. Par contre, le concept de sacrifice de remerciement, ça demeure encore. Tes péchés sont expiés. Maintenant, par les compassions de Dieu, offre ton corps en remerciement. Offre ton corps comme un sacrifice de remerciement à ton Dieu qui t'a sauvé. C'est ça que ça veut dire. C'est une offrande de remerciement, une offrande de communion, et c'est ma vie de tous les jours. Ce n'est pas des actes ponctuels dans l'Église ou dans le temple. Alors, peut-être que l'exemple de Ian et Larissa est un bon exemple. Ils se sont engagés dans un mariage chrétien difficile, mais avec, ils voyaient que ça, que Dieu leur inspirait cette mission où ils allaient communiquer quelque chose l'un envers l'autre à Dieu et au monde autour d'eux. Ils ont offert leur corps comme un sacrifice de remerciement. Et ça, c'était 24/7. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Offre ta vie à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Toute ta vie. Ça peut être des grosses choses, mais c'est surtout beaucoup de petites choses. C'est que chaque matin, tu te réveilles, j'ai entendu quelqu'un dire ce matin, « Merci, je me suis réveillé, je suis encore en vie. Merci Seigneur. » Ça, c'est merveilleux. Et l'autre chose que tu peux dire, c'est, même si ça ne me tente pas, parce que peut-être j'ai des douleurs dans mon corps, je t'offre mon corps comme une offrande de remerciement pour cette journée. Des fois, c'est difficile ce qu'on sent que le Seigneur nous demande à faire. Mais ça vaut toujours la peine d'offrir notre corps. Notre corps, c'est comme un symbole pour dire toute notre vie. Parce que c'est à travers notre corps qu'on fait les choses, qu'on agit dans le monde. Même quand on a mangé, aujourd'hui, c'était un acte spirituel, c'est notre corps qui a mangé, qui a bu. Tantôt, quand on va chanter des cantiques, c'est notre corps qui va chanter. Offre ton corps. Des fois, c'est difficile, mais ça vaut toujours la peine parce que c'est toujours source de joie de faire ce que Dieu nous inspire à faire en Jésus-Christ. Continuons. Ce sacrifice, il y a trois adjectifs pour le décrire. Le sacrifice de ta vie que tu vas donner en remerciement, c'est pas, il n'y a rien d'obligatoire pour ton salut, c'est juste ce que Dieu désire. C'est un sacrifice vivant, c'est un sacrifice saint et c'est un sacrifice agréable à Dieu. Donc, un sacrifice vivant, ce n'est pas un sacrifice mort. Tu ne tues pas d'animal puis tu ne meurs pas. Mais tu y vas avec ta vie et ta vie va donner la vie. Tu vas poser des gestes d'amour envers Dieu, envers les autres, et qui vont être contagieux. C'est vivant et vivifiant avec Christ en toi. C'est dynamique et changeant aussi. Peut-être que dans cette période de ta vie, Dieu t'appelle à donner un sacrifice vivant dans tel domaine. L'année prochaine, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle adaptation. L'amour de Dieu et des autres. Sacrifice vivant. Et je pense à, donc, ceux qui sont un peu plus vieux, comme moi, et, ou qui sont déjà à la retraite ou qui s'approchent de la retraite. Ça ne se finit pas, là, le sacrifice vivant à 65 ans. Moi, je connais des pasteurs de l'Alliance qui terminent leur pastorat dans une église et ils prient et Dieu les envoie en mission. Leur sacrifice vivant continue, mais c'est dynamique et changeant. Et on s'adapte à chaque époque de notre vie. Saint veut dire séparé. Ça, c'est l'autre mot. Séparé pour Dieu et pour son service. Donc, le chrétien dans le monde, il est mis à part pour être le témoin, le porte-parole de Dieu et de l'Évangile. On est saint parce que Dieu nous a choisis. Par contre, quand on va vers les autres pour être des témoins de Jésus, pour poser des gestes en son nom, on ne se présente pas comme supérieur. Non, on reste des pécheurs, on est des pécheurs pardonnés et on les invite à venir à la croix avec nous. C'est dans ce sens-là qu'on est saint. Mais le mot « agréable à Dieu » signifie qu'on est invité à découvrir de plus en plus qu'est-ce que Dieu aime. C'est quoi qui est agréable à Dieu? Alors, on doit premièrement profiter des occasions pour apprendre. Donc, merci à ceux qui se sont inscrits pour des cours, que ce soit par exemple le cours appartenir ou autre. On est en train d'approfondir qu'est-ce qui est agréable à Dieu. On doit s'instruire. Puis en même temps, il ne faut pas trop s'inquiéter. Hein? Si tu as la reconnaissance dans ton cœur, reconnaissance pour la compassion de Dieu, c'est ça qui compte pour Dieu. Même si tes actions sont maladroites, tu vas apprendre à améliorer tes actions et tu vas toujours faire des maladresses, mais est-ce que tu le fais par remerciement pour la compassion de Dieu pour toi, pour son salut pour toi? Si oui, ben Dieu y accepte tes actions. J'étais chez quelqu'un l'autre jour et il me dit, tu sais, à un moment donné, quand tu étais petit, tu as appris à colorier entre les lignes. Hein, vous savez, avec les crayons couleurs, des fois, on a des profils qui sont dessinés en noir, puis il faut que tu apprennes à colorier à l'intérieur des lignes. Mais si, à la fête des mères, tu amenais, tu étais petite, et puis tu donnes à ta maman un coloriage où les lignes dépassent, est-ce que ta mère va être fâchée? Non! Elle va dire, « Wow, tu m'aimes, et puis même si c'est pas parfait encore, j'aime ça. Dieu est comme ça avec toi. » Alors, ne t'inquiète pas trop. Déjà, tu es agréable à Dieu. Mais avance dans ta connaissance de c'est où les lignes. Parce que tu es en train de colorier des beaux dessins de remerciement à Dieu par toutes sortes de choses dans ta vie. Et Paul dit ceci concernant ce qu'il vient de t'encourager. Il dit, ça là, ce que je viens de dire que tu t'es appelé à faire, ça sera de ta part un culte raisonnable. Ça sera de ta part un culte raisonnable. C'est une drôle de traduction. J'ai déjà vu une autre traduction des mêmes mots. Ce serait plus, c'est ta seule réponse logique. OK? Par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a une réponse qui a bien du bon sens. Ça a bien du bon sens, puis c'est ce que je viens de dire. Offre ta vie en sacrifice vivant. OK? C'est la réponse qui a bien du bon sens. C'est ça que ça veut dire. Pas, tu sais, comme rester dans l'incertitude si Dieu m'aime, puis continuer à faire des œuvres méritoires. Ça m'arrive des fois de parler à des personnes qui participent à l'Oasis et je leur demande, est-ce que tu sais si tu es sauvé? Et la personne, des fois, ça peut arriver, je ne suis pas sûr, je ne le sais pas. Alors, on revient sur l'œuvre de Christ et puis les promesses. Et il y a cette doctrine qu'on appelle l'assurance du salut, que les apôtres et Jésus lui-même dit, si tu m'as reçu dans ta vie, tu as la vie éternelle. Personne ne va te ravir de ma main. Aie l'assurance du salut. Et donc, ce n'est pas par les œuvres pour essayer de mériter le salut. Non. Ce n'est pas par la recherche du plaisir personnel. Ce n'est pas par l'élitisme des philosophes. Mais le culte raisonnable, le seul service qui a bien du bon sens, c'est ça. Et c'est cette prière qui va avec. Une prière simple. Seigneur, montre-moi dans ma situation, qu'est-ce qui va te faire plaisir? Il n'y a aucun problème que tu vis, qu'il n'y a pas un sacrifice vivant qui plaît à Dieu, qui n'est pas disponible. Il y en a même plusieurs. Puis, on va voir que la science de la vie chrétienne, c'est essayer de découvrir la meilleure. C'est pour ça que la prochaine expression, c'est « soyez », pas tout à fait la prochaine, mais on va aller à ce qui précède dans un instant. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, il faut comprendre qu'il y a une nouvelle manière de penser que l'Esprit-Saint veut me donner pour entrer dans cette nouvelle manière de vivre. Penser avant d'agir. Il faut changer ma manière de réfléchir ma vie avant de pouvoir bien vivre ma vie selon l'Évangile. J'aime beaucoup la douceur de ça aussi. Mon intelligence est impliquée là-dedans. J'aime ça. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir ici quand on les invite et disent « Oh non, j'imagine les églises, c'est des lieux un peu rudes et brutaux. On oblige les gens à faire les choses et ne pas utiliser leur intelligence. » Moi, j'aime le fait que Paul dit « Laissez votre intelligence entrer dans la nouvelle manière de penser. L'Esprit-Saint va te guider, va t'instruire. C'est quelque chose de doux et de progressif. Et c'est une façon de vivre qui est intéressante. Puis j'aimerais ça que tu deviennes une personne de plus en plus intéressante pour tes amis. Peut-être ils vont te dire, mais tu as fait quelque chose qui m'a surpris l'autre jour. J'aurais pas fait ça. Mais toi, tu as fait ça. Pourquoi? Puis, sans prêcher d'une manière rude, mais tu leur dis, bien, voici comment j'ai réfléchi et qui a fait que j'ai plutôt fait cette action-là qui t'a surprise. C'est une façon de vivre intéressante qui va te rendre, toi, une personne intéressante pour ceux qui t'entourent. Parce que Paul dit avant, en rose, ne vous conformez pas au monde actuel. Le monde dans lequel nous vivons a d'autres valeurs. Donc, il y a comme une opposition, bien souvent, on peut la voir assez clairement, entre qu'est-ce que Christ nous la manière que Christ nous demande de réfléchir à la vie et le monde dans lequel nous vivons va nous inspirer, va nous encourager vers des valeurs contraires. Bon, le monde va souvent nous dire, et ça, je trouvais que quand j'étais jeune et que je devais faire des choix pour mon éducation, ça venait et parfois de ma famille. Écoute, Marc, niaise pas trop avec cette affaire-là de l'Évangile, là. Le bonheur et puis le bien-être dans ce monde, c'est pas facile à obtenir. Faut que tu te battes, là. Faut que ça soit ta priorité. Ta mission, c'est de travailler fort pour trouver ton bonheur et pour le maintenir. Il faut que tu te battes, parfois même en compétition avec les autres. Alors, je comprends. C'est comme ça que notre société, elle est bâtie. Je ne blâme pas ma famille, mais et moi-même, je me rendais compte parfois dans ce que je disais à mes propres enfants par rapport à leur éducation. Oh, il y a parfois des valeurs du monde qui entrent. Parce que l'Évangile nous dit ceci, « Tu as déjà tout reçu gratuitement. Tu es établi pour l'éternité dans l'amour de Dieu. » Tu peux maintenant donner librement de toi-même. Moi, je suis pour les études. Je suis pour même les études avancées. Mais c'est quoi ta motivation? Je pense que le renouvellement de l'intelligence va te donner d'autres motivations que simplement assurer mon bien-être matériel à moi. Ton bonheur, tu l'as déjà. Approche la chose différemment. Je voudrais donner un exemple, une autre histoire qui m'a frappé. Et ça, c'était un étudiant que j'ai connu dans les GBU. Lui venait d'Afrique, du Cameroun. Je ne sais pas, est-ce qu'on a quelqu'un qui vient du Cameroun ce matin? Non? OK, mais c'est un très beau pays. Et lui, il est venu à l'UQAM pour étudier. Je vais l'appeler Lucien. Est-ce que Lucien est ici ce matin? Non. Okay. Non, mais c'est une histoire vraie. Il était arrivé en retard pour la session d'automne à l'UQAM. Il étudiait en administration. Et il a eu le dernier lit dans la dernière des résidences étudiante à l'UQAM, et c'est des appartements où ils sont cinq étudiants. Et donc, il l'a eu le dernier, il arrive en retard pour la session. Et, oh, le temps avance beaucoup. J'ai presque fini. Les quatre autres étaient là déjà. Ils étaient déjà emménagés dans l'appart. Et il entre avec ses valises, mais il ne le remarque même pas, puis ils sont en train de se chicaner. Pourquoi tu n'as pas fait le ménage? C'était pas à moi de faire le ménage, c'est toi qui as fait le dégât. Et la vaisselle d'hier est encore, oui, mais c'est de ta faute. Mais les quatre étaient en train de chicaner. Pauvre Lucien entre et il arrive avec ses valises. Il trouve la chambre où il n'y a personne, où le lit, il s'installe là, il ferme la porte, il dépose ses valises, il commence à prier. Seigneur, sors-moi d'ici. Mais le Seigneur lui parle et lui donne une idée. C'est une histoire vraie, là. Lucien sort. Il sort et il s'en va dans la cuisine. Les gars sont encore en train de se chicaner. Il commence à faire la vaisselle. Et il finit la vaisselle. Et là, il sort la vadrouille et le chaudron, il met du détergent, de l'eau. Les gars, là, ils le remarquent. Ils commencent à l'aider. Ils en vont, ils arrêtent de chicaner, ils vont l'aider. Ils font tout le ménage de l'appartement ensemble. Ils sortent les vidanges, finalement. Et ensuite, Lucien, on va l'appeler Lucien, Il les rassemble parce que, bon, il avait des qualités de leadership. Il dit, OK, les gars, il faudrait que vraiment on établisse une vie ensemble, une vie communautaire. On va faire des repas, je ne sais pas à quelle fréquence, ensemble, et puis on va organiser les tâches dans l'appartement. Il est comme devenu chef de l'appartement en un seul jour. Et quel impact? Quel impact? Alors, l'idée, c'est transformation de l'intelligence. Sa prière est passée de « Sors-moi d'ici » à « Seigneur, c'est quoi qui te ferait plaisir? » Et des fois, on est surpris. On a vu avec Larissa, wow, Dieu l'a pris par surprise. Lucien également. Ils sont devenus des sacrifices vivants. Et toi aussi, même dans des petites choses, tu peux, cette semaine, offrir ton corps et devenir ce sacrifice vivant avec cette prière. Seigneur, devant mon défi d'aujourd'hui et les ressources que j'ai, qui sont les miennes, c'est quel choix qui est le meilleur? Peut-être que je ne le connais pas du tout, mais parle-moi. Le Saint-Esprit nous parle. Quelle joie, quelle merveille que cette nouvelle vie avec Jésus-Christ. Pour terminer, relisons ce beau texte ensemble. Oui, on n'a pas le temps, mais on veut discerner la volonté de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, il peut y avoir plusieurs bonnes façons de réagir. On est en train d'apprendre à discerner la meilleure. Et c'est quelque chose de joyeux. Ce qui est bon, agréable et parfait. OK. Voilà. Donc, lisons ensemble pour terminer. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. J'invite...